Pêcheurs d'Islande. Quatrième partie. Chapitre 7. Le dîner de noces se fit chez les parents de Yann à cause de ce logis de Gaude qui était bien pauvre. Ce fut en haut, dans la grande chambre neuve, une tablée de 25 personnes autour des mariés, des sœurs et des frères, le cousin Gaos, le pilote, Görmer, Kerraez, Yvon Duff, tous ceux de l'ancienne Marie qui étaient de la Léopoldine à présent. Quatre filles d'honneur très jolies, leurs nattes de cheveux disposées en rond au-dessus des oreilles, comme autrefois les impératrices de Byzance, et leurs coiffes blanches à la nouvelle mode des jeunes en forme de conque marine. Quatre garçons d'honneur, tous islandais, bien plantés, avec de beaux yeux fiers. Et en bas aussi, bien entendu, on mangeait et on cuisinait. Toute la queue du cortège s'y était entassée en désordre, et des femmes de peine, louées à Paimpol, perdaient la tête devant la grande cheminée encombrée de poêles et de marmites. Les parents de Yann auraient souhaité pour leur fils une femme plus riche, c'est bien sûr. Mais Gaude était connue à présent pour une fille sage et courageuse. Et puis, à défaut de sa fortune perdue, elle était la plus belle du pays. Et cela les flattait de voir les deux époux s'y assortis. Le vieux père en gaieté, après la soupe, disait de ce mariage « Ça va faire encore des gaos, on n'en manquait pourtant pas dans Ploubazlanec. » Et en comptant sur ses doigts, il expliquait à un oncle de la mariée comment il y en avait tant de ce nom-là. Son père, qui était le plus jeune de 9 frères, avait eu 12 enfants, tous mariés avec des cousines. Et ça en avait fait, tout ça, des gaos, malgré les disparus d'Islande. « Pour moi, dit-il, j'ai épousé aussi une gaos, ma parente, et nous en avons fait encore 14 à nous deux. » Et à l'idée de cette peuplade, il se réjouissait en secouant sa tête blanche. Dame, il avait eu de la peine pour les élever, ces 14 petits gaos. Mais à présent, ils se débrouillaient et puis ces 10 000 francs de l'épave les avaient mis vraiment bien à leur aise. En gaieté aussi, le voisin Görmer racontait ses tours joués au service des histoires de Chinois, d'Antilles, de Brésil, faisant écarquiller les yeux aux jeunes qui allaient y aller. Un de ses meilleurs souvenirs, c'était une fois, à bord de l'Iphigénie, on faisait le plein des soutaves, le soir, à la brune, et la manche en cuir par où ça passait pour descendre s'était crevée. Alors, au lieu d'avertir, on s'était mis à boire à même jusqu'à plus soif. Ça avait duré 2 heures, cette fête. À la fin, ça coulait plein la batterie. Tout le monde était saoul. Et ces vieux marins, assis à table, riaient de leur rire au bon enfant avec une pointe de malice. « On crie contre le service, disait-il. Eh bien, il n'y en a encore que là pour faire des tours pareils. » Dehors, le temps ne s'embellissait pas, au contraire. Le vent, la pluie faisaient rage dans une épaisse nuit. Malgré les précautions prises, quelques-uns s'inquiétaient de leur bateau ou de leur barque amarrée dans le port et parlaient de se lever pour aller y voir. Cependant, un autre bruit, beaucoup plus gai à entendre, arrivait d'en bas, où les plus jeunes de la noce soupaient les uns sur les autres. C'étaient les cris de joie, les éclats de rire des petits cousins et des petites cousines, qui commençaient à se sentir très émoustillés par le cidre. On avait servi des viandes bouillies, des viandes rôties, des poulets, plusieurs espèces de poissons, des omelettes et des crêpes. On avait causé pêche et contrebande, discuté toutes sortes de façons pour attraper les messieurs douaniers qui sont, comme on sait, les ennemis des hommes de mer. En haut, à la table d'honneur, on se lançait même à parler d'aventures drôles. Ceux-ci se croisaient en breton entre ces hommes qui tous, à leur époque, avaient roulé le monde. « À Hong Kong, les maisons, tu sais bien, les maisons qui sont là en montant dans les petites rues. » « Ah oui !» répondait du bout de la table un autre qui les avait fréquentés. « Oui, en tirant sur la droite quand on arrive. »« C'est ça. Enfin, chez les dames chinoises, quoi. » Donc nous avions consommé là-dedans, à 3 que nous étions, des vilaines femmes madouées mais vilaines. « Ah, pour vilaine, je te crois !» dit négligemment le grand Yann, qui lui aussi, dans un moment d'erreur, après une longue traversée, les avait connues, ces chinoises. Après, pour payer, qui est-ce qui en avait des piastres? Cherche, cherche dans les poches, ni moi, ni toi, ni lui. Plus le sou, personne. Nous faisons des excuses en promettant de revenir. Ici, il contournait sa rude figure bronzée et minaudait comme une chinoise très surprise. Mais la vieille, pas confiante, commence à miauler, à faire le diable et finit par nous griffer avec ses pattes jaunes. Maintenant, il singeait ses voix pointues de là-bas et grimaçait comme cette vieille en colère, tout en roulant ses yeux qu'il avait retroussés par le coin avec ses doigts. Et voilà les deux Chinois, les deux patrons de la boîte, tu me comprends, qui ferment la grille à clé et nous dedans. Comme de juste, on te les empoigne par la queue pour les mettre en danse la tête contre les murs. Mais crac, il en sort d'autres par tous les trous, au moins une douzaine, qui se relèvent les manches pour nous tomber dessus, avec des airs de se méfier tout de même. Moi, j'avais justement mon paquet de canne à sucre acheté pour mes provisions de route. Et c'est solide, ça ne casse pas quand c'est vert. Alors tu penses, pour cogner sur les magots si ça nous a été utile? Non, décidément, il ventait trop fort. En ce moment, les vitres tremblaient sous une rafale terrible, et le conteur, ayant brusqué la fin de son histoire, se leva pour aller voir sa barque. Un autre disait « Quand j'étais quartier-maître canonnier, en fonction de caporal d'armes sur la Zénobie, à Aden, un jour, je vois les marchands de plumes d'autruche qui montent à bord, imitant l'accent de là-bas. « Bonjour, caporal d'armes, nous, pas voleurs, mais bons marchands. » D'un paraviré, je les fais redescendre 4 à 4. Toi, bon marchand, que je dis, apporte un peu d'abord un bouquet de plumes pour me faire cadeau. Nous verrons après si on te laissera monter avec ta pacotille. Et je m'en serais fait pas mal d'argent en retour si je n'avais pas été si bête, douloureusement. Mais tu sais, dans ce temps, j'étais jeune homme. Alors à Toulon, une connaissance à moi qui travaillait dans les modes. Allons bon. Voici qu'un des petits frères de Yann, un futur Islandais, avec une bonne figure rose et des yeux vifs, tout d'un coup se trouve malade pour avoir bu trop de cidre. Bien vite, il faut l'emporter, le petit Lomec, ce qui coupe court au récit des perfidies de cette modiste pour avoir ses plumes. Le vent dans la cheminée hurlait comme un damné qui souffre. De temps en temps, avec une force à faire peur, il secouait toute la maison sur ses fondements de pierre. « On dirait que ça le fâche parce que nous sommes en train de nous amuser, » dit le cousin pilote. « Non, c'est la mère qui n'est pas contente, » répondit Yann en souriant à Gaude, « parce que je lui avais promis mariage. » Cependant, une sorte de langueur étrange commençait à les prendre tous deux. Ils se parlaient plus bas, la main dans la main, isolés au milieu de la gaieté des autres. Lui, Yann, connaissant l'effet du vin sur les sens, ne buvait pas du tout ce soir-là. Et il rougissait à présent, ce grand garçon, quand quelqu'un de ses camarades islandais disait une plaisanterie de matelot sur la nuit qui allait suivre. Par instant, aussi, il était triste, en pensant tout d'un coup à Sylvestre. D'ailleurs, il était convenu qu'on ne devait pas danser à cause du père de Gaude et à cause de lui. On était au dessert. Bientôt allaient commencer les chansons. Mais avant, il y avait les prières à dire pour les défunts de la famille. Dans les fêtes de mariage, on ne manque jamais à ce devoir de religion. Et quand on vit le père Gaos se lever en découvrant sa tête blanche, il se fit du silence partout. « Ceci, dit-il, est pour Guillaume Gaos, mon père. » Et en se signant, il commença pour ce mort la prière latine. Pater noster qui es in coelis sanctificetur nomen tuum. Un silence d'église s'était maintenant propagé jusqu'en bas, aux tablées joyeuses des petits. Tous ceux qui étaient dans cette maison répétaient en esprit les mêmes mots éternels. Ceci est pour Yves et Jean Gaos, mes frères perdus dans la mer d'Islande. « Ceci est pour Pierre Gaos, mon fils, naufragé à bord de la Zélie. » Puis, quand tous ces Gaos eurent chacun leur prière, il se tourna vers la grand-mère Yvonne. « Ceci, dit-il, est pour Sylvestre Mohan. » Et il en récita une autre encore. Alors Yann pleura. « Sed libera nos amalo. Amen. »
Descendait de sa terre, poussait. poussés par la misère.
Ils descendaient de sa terre, poussés par la misère.
Marins des terres qui venaient en bord de mer, cherchaient pour vivre un contrat sur un navire.
Les chansons commencèrent après, des chansons apprises au service, sur le Gaillard d'avant, où il y a, comme on sait, beaucoup de beaux chanteurs.
C'est pour de longs mois la chaleur de son toit.
C'est pour de longs mois la chaleur de son toit.
Marin des terres qui venait en bord de mer, cherchait pour vivre un contrat sur un navire. Il laissait tomber sa ferme pour devenir homme de peine.
Il laissait tomber sa ferme pour devenir homme de peine.
Marin des terres qui venait en bord de mer, cherchait pour vivre un contrat sur un navire.
Les couplets étaient dits par un des garçons d'honneur d'une manière tout à fait langoureuse qui allait à l'âme. Et puis le chœur était repris par d'autres belles voix profondes.
Marin des terres qui venait en bord de mer, cherchait pour vivre un contrat sur un navire. Pour le profit d'un armateur, il vendait sa sueur.
Pour le profit d'un armateur, il vendait sa sueur.
Marin des terres qui venait en bord de mer, cherchait pour vivre un contrat sur un navire.
Il partait vers l'inconnu pour pêcher la morue.
Marin des terres qui venait en bord de mer, cherchait pour vivre un contrat sur un navire.
Il allait sur les grands vents donner sa peine, son sang.
Il allait sur les grands vents donner sa peine, son sang. Marin des terres qui venait en bord de mer, cherchait pour un contrat sur un navire. Il travaillait à la dure, les mains pleines de Jésus.
Mais les nouveaux époux n'entendaient plus que du fond d'une sorte de lointain. Quand ils se regardaient, leurs yeux brillaient d'un éclat trouble, comme des lampes voilées. Ils se parlaient de plus en plus bas, la main toujours dans la main, et Gaude baissait souvent la tête, prise peu à peu devant son maître, d'une crainte plus grande et plus délicieuse.
Pour vivre un contrat sur un navire, il vivait dans la hantise des brouillards de la banquise.
Il vivait dans la hantise des brouillards de la banquise.
Maintenant, le cousin pilote faisait le tour de la table pour servir d'un certain vin à lui. Il l'avait apporté avec beaucoup de précaution, caressant la bouteille couchée qu'il ne fallait pas remuer, disait-il. Il en raconta l'histoire. Un jour de pêche, une barrique flottait toute seule au large. Pas moyen de la ramener, elle était trop grosse. Alors il l'avait crevée en mer, remplissant tout ce qu'il y avait à bord de pots et de mocs, impossible de tout emporter. On avait fait des signes aux autres pilotes, aux autres pêcheurs. Toutes les voiles en vue s'étaient rassemblées autour de la trouvaille. Et j'en connais plus d'un qui était saoul en rentrant le soir à Port-Seven. Toujours le vent continuait son bruit affreux. En bas, les enfants dansaient des rondes. Il y en avait bien quelques-uns de couchés, des tout petits gaos, ceux-ci. Mais les autres faisaient le diable, menés par le petit Fantec et le petit Lomec, voulant absolument aller sauter dehors et à toute minute ouvrant la porte à des rafales furieuses qui soufflaient les chandelles. Lui, le cousin pilote, finissait l'histoire de son vin. Pour son compte, il en avait eu 40 bouteilles. Il priait bien qu'on n'en parlât pas, à cause de monsieur le commissaire de l'inscription maritime, qui aurait pu lui chercher une affaire pour cette épave non déclarée. « Mais voilà, disait-il, il aurait fallu les soigner, ces bouteilles. Si on avait pu les tirer au clair, ça serait devenu tout à fait du vin supérieur. Car certes, il y avait dedans beaucoup plus de jus de raisin que dans toutes les caves de débitants de Paimpol. Qui sait où il avait poussé ce vin de naufrage? Il était fort, haut en couleur, très mêlé d'eau de mer et gardait le goût âcre du sel. Il fut néanmoins trouvé très bon et plusieurs bouteilles se vidèrent. Les têtes tournèrent un peu. Le son des voix devenait plus confus et les garçons embrassaient les filles. Les chansons continuaient gaiement. Cependant, on avait guère l'esprit tranquille à ce souper et les hommes échangeaient des signes d'inquiétude à cause du mauvais temps qui augmentait toujours. Dehors, le bruit sinistre allait son train, pis que jamais. Cela devenait comme un seul cri, continu, renflé, menaçant, poussé à la fois à plein gosier, à coups tendus par des milliers de bêtes enragées. On croyait aussi entendre de gros canons de marine tirer dans le lointain leurs formidables coups sourds. Et cela, c'était la mer qui battait de partout le pays de Ploubazlanec. Non, elle ne paraissait pas contente, en effet, et Gaude se sentait le cœur serré par cette musique d'épouvante que personne n'avait commandée pour leur fête de noces. Sur les minuits, pendant une accalmie, Yann, qui s'était levé doucement, fit signe à sa femme de venir lui parler. C'était pour s'en aller chez eux. Elle rougit, prise d'une pudeur, confuse de s'être levée. Puis elle dit que ce serait impoli s'en aller tout de suite laisser les autres. « Non, répondit Yann, c'est le père qui l'a permis, nous pouvons. » Et il l'entraîna. Ils se sauvèrent furtivement. Dehors, ils se trouvèrent dans le froid, dans le vent sinistre, dans la nuit profonde et tourmentée. Ils se mirent à courir en se tenant par la main. Du haut de ce chemin de falaise, on devinait sans les voir les lointains de la mer furieuse, d'où montait tout ce bruit. Ils couraient tous deux, cinglés en plein visage, le corps penché en avant contre les rafales, obligés quelquefois de se retourner, la main devant la bouche pour reprendre leur respiration que ce vent avait coupée. D'abord, ils l'enlevaient presque par la taille pour l'empêcher de traîner sa robe, de mettre ses beaux souliers dans toutes ces taux qui ruisselaient par terre. Et puis il la prit à son cou tout à fait et continuait de courir encore plus vite. Non, il ne croyait pas tant l'aimer. Et dire qu'elle avait 23 ans, lui bientôt 28, que depuis 2 ans au moins, ils auraient pu être mariés et heureux, comme ce soir. Enfin, ils arrivèrent chez eux, dans leur pauvre petit logis au sol humide, sous leur toit de paille et de mousse, et ils allumèrent une chandelle que le vent leur souffla 2 fois. La vieille grand-mère Mohan, qu'on avait reconduite chez elle avant de commencer les chansons, était là, couchée depuis 2 heures dans son lit en armoire, dont elle avait refermé les battants. Ils s'approchèrent avec respect et la regardèrent par les découpures de sa porte afin de lui dire bonsoir, si par hasard elle ne dormait pas encore. Mais ils virent que sa figure vénérable demeurait immobile et ses yeux fermés. Elle était endormie, ou feignait de l'être, pour ne pas les troubler. Alors ils se sentirent seuls l'un à l'autre. Ils tremblaient tous deux en se tenant les mains. Lui se pencha d'abord vers elle pour embrasser sa bouche, mais Gaude détourna les lèvres par ignorance de ce baiser-là, et aussi chastement que le soir de leur fiançailles, les appuya au milieu de la joue de Yann, qui était froidie par le vent tout à fait glacé. Bien pauvre, bien basse leur chaumière, et il y faisait très froid. Ah, si Gaude était restée riche comme anciennement, quelle joie elle aurait eu à arranger une petite chambre, non pas comme celle-ci, sur la terre nue. Elle n'était guère habituée encore à ces murs de granit brut, à cet air rude qu'avaient les choses. Mais son Yann était là avec elle. Alors par sa présence, tout était changé, transfiguré, et elle ne voyait plus que lui. Maintenant, leurs lèvres s'étaient rencontrées et elles ne détournaient plus les siennes. Toujours debout, les bras noués pour se serrer l'un à l'autre, ils restaient là, muets, dans l'extase d'un baiser qui ne finissait plus. Ils mêlaient leur respiration un peu haletante et ils tremblaient tous deux plus fort, comme dans une ardente fièvre. Ils semblaient être sans force pour rompre leur étreinte et ne connaître rien de plus, ne désirait rien au-delà de ce long baiser. Elle se dégagea enfin, troublée tout d'un coup. « Non, Yann, grand-mère Yvonne pourrait nous voir. » Mais lui, avec un sourire, chercha les lèvres de sa femme encore et les reprit bien vite entre les siennes, comme un altéré à qui on a enlevé sa coupe d'eau fraîche. Le mouvement qu'ils avaient fait venait de rompre le charme de l'hésitation délicieuse. Yann, qui aux premiers instants se serait mis à genoux comme devant la Vierge Sainte, se sentit redevenir sauvage. Il regarda furtivement du côté des vieux lits en armoire, ennuyé d'être aussi près de cette grand-mère, cherchant un moyen sûr pour ne plus être vu. Toujours sans quitter les lèvres exquises, il allongea le bras derrière lui et du revers de la main éteignit la lumière comme avait fait le vent. Alors brusquement, il l'enleva dans ses bras avec sa manière de la tenir, la bouche toujours appuyée sur la sienne. Il était comme un fauve qui aurait planté ses dents dans une proie. Elle abandonnait son corps, son âme, à cet enlèvement qui était impérieux et sans résistance possible, tout en restant doux comme une longue caresse enveloppante. Il l'emportait dans l'obscurité vers le beau lit blanc à la mode des villes qui devait être leur lit nuptial. Autour d'eux, pour leur premier coucher de mariage, le même invisible orchestre jouait toujours. Le vent tantôt donnait en plein son bruit caverneux, avec un tremblement de rage, tantôt répétait sa menace plus bas à l'oreille, comme par un raffinement de malice, avec des petits sons filés, en prenant la voix flûtée d'une chouette. Et la grande tombe des marins était tout près, mouvante, dévorante, battant les falaises de ses mêmes coups sourds. Une nuit ou l'autre, il faudrait être pris là-dedans, s'y débattre, au milieu de la frénésie des choses noires et glacées. Il le savait. Qu'importe. Pour le moment, ils étaient à terre, à l'abri de toute cette fureur inutile et retournée contre elle-même. Alors, dans le logis pauvre et sombre où passait le vent, ils se donnèrent l'un à l'autre, sans souci de rien, ni de la mort, enivrés, leurrés délicieusement par l'éternelle magie de l'amour.